Il est midi et demi sur France Culture. Rendez-vous avec le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Moscou prépare l'après-guerre en Syrie. Après avoir reçu hier Bachar el-Assad à Sotchi, Vladimir Poutine va accueillir demain ses homologues turcs et iraniens. Précision d'Éric Biegala dans un instant. Au nord-est du Nigeria, attentat suicide contre une mosquée durant les prières du matin qui a fait au moins 50 morts. Attentat non revendiqué mais qui porte la marque de Boko Haram. Analyse de Nabila Hamel. En Allemagne, la crise politique reste ouverte. Le président Steinmeier reçoit aujourd'hui les chefs de parti pour un dialogue de la dernière chance, suivi des débats avec Cyril Sauvageau. En France, des routiers ont installé des barrages filtrants aux frontières belges, espagnoles et italiennes pour protester contre leur exclusion de la nouvelle directive européenne qui va durcir les conditions de recours à des travailleurs détachés. Leur nombre de ces travailleurs détachés a augmenté en France très fortement. En 2016, près de 24% de plus, explication avec Annabelle Grelier. Et puis Emmanuel Macron devrait annoncer aujourd'hui le nom du porte-parole, nouveau porte-parole du gouvernement, pour remplacer Christophe Castaner, devenu délégué général de La République En Marche. Mais il pourrait aussi, Monsieur Castaner, rester secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Il est tout à fait capable d'exercer les deux fonctions, vient de déclarer le Premier ministre Édouard Philippe, l'invité de la séquence interview. François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesbert.
Un Nobel d'économie, celui de 2006, l'américain Edmund Phelps, qui est notre invité. Il veut libérer l'innovation et pour ce faire, il plaide pour un retour aux valeurs modernes. Il sera avec nous à partir de 12h55. À noter juste qu'il a publié cette année chez Odile Jacob la prospérité de masse. Comment retrouver donc la prospérité pour nos économies? On en parlera avec lui.
Le président russe est donc à la manœuvre pour un règlement politique de la crise syrienne. Vladimir Poutine a reçu hier à Sotchi le président syrien Bachar al-Assad. Il l'a félicité pour ses résultats, je cite, « résultats dans la lutte contre le terrorisme notamment », avant d'affirmer qu'il est temps maintenant de passer au processus politique. Le chef d'état-major russe affirme d'ailleurs de son côté que la phase active de l'opération militaire s'achève maintenant. Monsieur Poutine qui va accueillir demain, toujours à Sotchi, ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani, lequel d'ailleurs vient de proclamer la fin de l'État islamique. Éric Pégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors quel est donc ce plan russe maintenant pour l'après-guerre en Syrie?
Alors on n'en est pas encore à l'après-guerre proprement dite, hein, mais pour Vladimir Poutine, appuyé d'ailleurs par les dernières déclarations de son chef d'état-major, les opérations strictement militaires sont bel et bien en passe de se terminer en Syrie et il va falloir passer à autre chose. Dans une déclaration commune il y a 10 jours, les présidents russe et américain s'étaient d'ailleurs accordés pour dire qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit et soutenir une solution politique sous égide onusienne. En clair, il s'agit aujourd'hui de remettre les Syriens autour d'une table et de mettre en branle un processus de paix. Sur le terrain, les Russes ont à peu près réussi à mettre en œuvre non pas un arrêt des combats, mais une réduction des affrontements entre le régime et les rebelles, et ce au travers des 4 zones de désescalade établies dans le pays. C'était le processus d'Astana, dont les 3 parrains, les présidents iraniens, russes et turcs, doivent se retrouver demain à Sotchi. Au-delà, les Russes entendent également réunir, toujours à Sotchi, ce qu'ils appellent un congrès du dialogue national syrien, y invitant toutes les parties au conflit, le régime, les rebelles et les Kurdes. Ce congrès n'a pour le moment pas pu se tenir, la présence de l'opposition syrienne, comme celle des Kurdes, étant toujours problématique, soit pour les uns, soit pour les autres. Enfin, et ça c'est prévu pour la semaine prochaine, le 28 novembre, à Genève et sous égide de l'ONU, un 8e round de négociations indirectes entre représentants du régime et des rebelles est censé entamer des négociations politiques quant à l'avenir du pays. Nouvelle constitution ou amendement de celle existante et surtout rôle de Bachar el-Assad sont au programme. Toutes les tentatives passées de négociations politiques ont achoppé notamment sur ce dernier point, le rôle ou la simple présence de Bachar dans un régime de transition et il est difficile d'imaginer qu'il en ira autrement cette fois-ci, d'autant que le régime de Bachar el-Assad est aujourd'hui en position beaucoup plus forte qu'à aucun autre moment depuis 2012 et ce grâce à l'appui militaire des Iraniens et des Russes.
Éric Biegala, merci. Au nord-est du Nigeria, foyer de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram, attentat suicide ce matin contre une mosquée durant la prière du matin qui a fait au moins 50 morts. C'est un attentat qui n'a pas encore été revendiqué, mais qui porte la marque donc de Boko Haram. Insurrection du groupe djihadiste qui dure depuis 8 ans maintenant, qui a fait au moins 20 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Boko Haram avait, comme l'État islamique, perdu beaucoup de terrain, mais ça ne l'a n'empêche pas, de toute évidence, on le voit encore ce matin, de prolonger son combat meurtrier.
Oui, on est donc loin des prévisions optimistes de l'armée nigériane. Il y a un an, elle voyait le groupe djihadiste en passe d'être vaincu après avoir été chassé de son immense fief, la forêt de Sambisa. Le groupe d'Aboubakar Shekau a certes perdu du terrain après de grandes opérations militaires menées par le Nigeria et les armées de pays voisins comme le Tchad et le Cameroun, mais il n'a pas perdu totalement sa capacité d'organiser des attaques. Le nord-est du Nigeria est une vaste région, difficilement accessible pendant la saison des pluies. Les djihadistes y restent mobiles et peuvent mener des attaques un peu partout, aux alentours du lac Tchad et dans les zones frontalières du Cameroun. Ces cibles restent les militaires, mais les plus faciles à atteindre, les plus vulnérables surtout, sont les civils, les villageois. 6 agriculteurs étaient tués hier dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, qui était leur fief traditionnel. Aujourd'hui, 50 personnes, des fidèles musulmans, ont été tuées dans une attaque suicide alors qu'ils priaient à la mosquée. Aux yeux de Boko Haram, les mosquées restent des cibles privilégiées, partant du postulat que tout civil qui n'a pas rejoint le mouvement est considéré comme un ennemi ou un soutien du gouvernement d'Abuja. L'attentat de ce matin a été perpétré dans l'état d'Adamawa, qui avait pourtant connu un progressif, bien que fragile, retour au calme depuis 2 ans. C'est l'attaque la plus meurtrière dans le nord-est du pays depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi transportant les membres d'une mission de prospection pétrolière dans l'état voisin du Borno, qui avait fait 70 morts.
Nabila Hamel. En Allemagne, la crise politique reste ouverte. Le président Franz Walter Steinmeier reçoit aujourd'hui donc les chefs de tous les partis, sauf Die Linke et de l'AfD. Il tente donc ce dialogue de la dernière chance. On retrouve Cyril Sauvageau sur place. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vu le blocage actuel, cette ultime tentative a apparemment peu de chances de réussir.
Et il faudrait pour cela qu'une nouvelle coalition puisse émerger, mais on ne voit pas trop qui pourrait désormais s'asseoir à la table des négociations. Angela Merkel a tout tenté avec les libéraux du FDP et les écologistes. Un mois de pourparlers, au bout du compte, on l'a vu, un échec retentissant. Frank-Walter Steinmeier va rappeler aujourd'hui les dirigeants de ces partis à leurs responsabilités, mais plus personne ne croit à une reprise des discussions. Alors depuis hier, tous les regards se tournent vers le SPD. Avec 20% des voix aux législatives, les sociaux-démocrates pourraient, en théorie, former une grande coalition avec la CDU, mais ils n'en veulent pas. Martin Schulz a été très clair hier. Le président allemand lui-même, social-démocrate, va tenter, sans grand espoir, de le faire changer d'avis. Les deux hommes se verront demain, mais l'hypothèse la plus probable, ce sont bel et bien de nouvelles élections.
Nouvelles élections. Cyril Sauvageau, comment ça se présenterait si c'était le cas ?
Alors, là encore, c'est le président qui joue un rôle central. C'est à lui d'enclencher le processus institutionnel quand il jugera qu'il n'y a plus d'autre option. Une fois le Bundestag dissous, il y aurait donc des élections au printemps, peut-être aux alentours de Pâques. Et là, il faudra voir ce qu'il en ressort. Rien ne dit que les résultats seront différents de ceux du 24 septembre. Jusqu'ici, les sondages indiquent plutôt que les électeurs pourraient rester fidèles à leur vote. Mais entre-temps, il y aura une nouvelle campagne et peut-être des bouleversements à la tête des partis. Au SPD, Martin Schulz est très critiqué. Il affrontera début décembre un congrès qui s'annonce très chaud. Quant à Angela Merkel, elle est clairement fragilisée, son autorité est mise en cause, mais la chancelière semble partie pour candidater à nouveau. L'Allemagne, dit-elle, a besoin de stabilité. Vu la crise politique où se trouve le pays, on est quand même en droit de se demander si elle incarne encore vraiment cette stabilité.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin.
Midi 40 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier. En France, le 100e congrès des maires s'est ouvert à Paris. Les élus attendent d'Emmanuel Macron qu'il clarifie ses intentions.
Oui, 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans, la baisse des APL, la diminution des emplois aidés, l'exonération de la taxe d'habitation. Les sujets de friction ne manquent pas entre collectivités et gouvernement. Et le chef de l'État va donc intervenir, ce sera après-demain. En attendant, ce sont une quinzaine de ministres qui vont défiler, qui sont attendus pour ces 3 jours de débat. Ce matin, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, affirmait sur RTL que M. Macron avait un problème avec les territoires. Les maires, aujourd'hui, dit-il, sont devenus les bonnes de la République. Stéphane Robert, vous revenez de la porte de Versailles. Comment est-ce que l'exécutif peut maintenant tenter d'apaiser cette fronde des élus ?
Disons qu'il doit avant tout les rassurer, leur montrer de la considération et montrer également qu'il comprend les problématiques territoriales. Parce que plus que d'une véritable fronde, il faut parler pour le moment en tout cas, de crainte, d'inquiétude chez ces acteurs de la vie politique locale. Au départ, quand il a été question de faire 13 milliards d'euros d'économies, beaucoup ont entendu qu'il y aurait une baisse des dotations. Or, ce n'est pas le cas. Ces 13 milliards sont des économies sur la hausse prévisionnelle des dépenses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 4% sur 5 ans, on leur demande de la limiter à 1,2%. Et encore, seules les 300 plus grosses collectivités sont concernées. Les petites communes ne seront pas touchées. Et ce message-là commence à être entendu. Même chose pour la taxe d'habitation. Emmanuel Macron s'est engagé à la compenser intégralement, à l'euro l'euro. Et ça, la plupart des élus veulent bien croire qu'il tiendra cet engagement. Ce qui les inquiète, c'est pour plus tard, d'ici 5, 10 ans. Et puis, c'est aussi le fait que l'État central semble reprendre la main sur le financement local. Et puis, même chose encore sur les emplois aidés, c'est essentiellement le secteur marchand qui est concerné, dont acte. Non, ce qui a braqué tout le monde, c'est la volonté affichée du chef de l'État de faire porter une part de la réduction du déficit public sur les collectivités. Beaucoup de maires se sont dit « ça va couper dans les budgets dans tous les sens ». Ils ont donc crié avant d'avoir mal. Et puis c'est surtout cette phrase prononcée par Emmanuel Macron en juillet « il y a trop d'élus locaux ». Ça, c'est très mal passé. C'est donc sur cet aspect-là essentiellement que le président est attendu. Compréhension et prise en compte des problématiques locales et puis qu'il leur montre de la considération. On verra jeudi si le président est aussi doué pour ça que François Baroin.
On salue notre invité, François Calfon, bonjour.
Bonjour.
Conseiller régional socialiste d'Île-de-France à l'initiative d'un appel d'élus locaux contre l'abandon des territoires par Macron. Et vous y dénoncez, je vous cite, la détestation des territoires issus de l'alliance des politiques libérales et d'une haute administration d'État mondialisée dont Emmanuel Macron est l'incarnation, la parfaite incarnation. Donc on voit bien que selon vous, le problème est plus idéologique, j'allais dire, que purement politique ou simplement politique.
C'est les deux, hein. Ça a été dit tout à l'heure. Je vais quand même rappeler des faits plutôt que des impressions, et je reviendrai aux impressions tout à l'heure. Finalement, les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public en France, hein. Et s'il n'y avait pas ces effets multiplicateurs, où en serions-nous? C'est 4 à 5 points de dette. L'État n'est pas vertueux, l'État n'a pas à donner de leçons. Ensuite, on nous parle de la dérive de l'emploi public dans les collectivités locales, mais par exemple sur les questions de sécurité, s'il n'y avait pas les polices municipales qui prennent le relais de la police nationale défaillante dans des tas de villes, eh bien, il y aurait des villes entières où la sécurité publique ne serait pas assurée. La tendance que je dénonce, c'est que on ne peut pas, comme ça, pendant les élections présidentielles et législatives, dire « Ah, ben, c'est la France périphérique » et inviter des sociologues, etc. Et ensuite, au lendemain, quand on passe aux travaux pratiques sur les relations de l'État et des collectivités locales, tout oublier. Cette France périphérique, celle qui vote pour les populismes, celle qui s'abstient, eh bien, vous avez aussi la Grande-Bretagne périphérique et les États-Unis périphériques. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le Brexit, ça donne Trump. Donc, est-ce qu'on veut que la dernière station de service, finalement, avant le populisme en France, ce soit Emmanuel Macron? Je lui conseille fortement d'arrêter de casser le thermomètre, puisque lui-même n'a jamais été élu local et que son excise corporelle, sa manière d'être ne correspond pas aux élus locaux, de vouloir les agresser comme il les agresse. D'autant que dans le même temps, n'oubliez pas, il distribue aux super riches. Hein, et ça n'est pas un slogan mélenchoniste, c'est la vérité. 3 milliards d'euros. Donc on fait les poches du mouvement HLM. On supprime les emplois aidés. Et là encore, je vais donner une précision, parce que tout ça, ça a l'air finalement un peu désincarné, un peu éthéré. Un chômeur à la collectivité, en moyenne, ça coûte 9000 euros. C'est des gens qui ne travaillent pas et qui désespèrent et qui ne sont pas utiles à la collectivité. Un emploi aidé, ça coûte 11000 euros. Est-ce que vous ne croyez pas que pour une différence de 2000 euros, qui est bien loin du financement d'un contrat en CICE, il vaut pas mieux que ces gens, que ces personnes aient de la considération et travaillent? Je leur donne un mot, je leur donne la voix à ces contrats aidés. La voix à ces contrats aidés, c'est Farida chez moi qui anime une épicerie sociale. C'est Jean-Luc chez un maire signataire chez nous qui est médiateur en matière sportive, là où les bénévoles ne sont plus dans les associations. Est-ce que ça, cette humanité-là, elle ne peut pas être entendue par le président de la République ?
François Calfon, merci, on vous retrouve tout à l'heure parce qu'on va parler aussi de l'avenir de la gauche. Signalons encore qu'Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du successeur du nouveau porte-parole du gouvernement pour remplacer donc Christophe Castaner qui est devenu le chef du parti La République En Marche, lequel donc Monsieur Castaner pourrait rester toutefois secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. C'est un cumul qui avait fait polémique, mais Christophe Castaner est tout à fait capable d'exercer les deux fonctions, déclare ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. On en reparlera sans doute aussi tout à l'heure.
Des routiers français ont installé ce matin des barrages filtrants aux frontières belges, espagnoles et italiennes. Ils protestent contre leur exclusion de la nouvelle directive européenne qui durcira les conditions de recours à des travailleurs détachés, Antoine.
Oui, les ministres du Travail de l'Union, rappelons-le, avaient décidé, c'était fin octobre, de limiter à un an la durée maximale du détachement, mais l'accord prévoyait toujours le maintien du paiement des cotisations sociales dans le pays d'origine. C'est cette clause qui explique sans doute la forte augmentation du recours au travail détaché ces dernières années. Leur nombre a augmenté de près de 24% en 2016, après une hausse d'ailleurs de la même importance en 2015. Bref, c'est un doublement en deux ans, selon des statistiques officielles de la Direction Générale du Travail. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, comment expliquer la vigueur de cette progression et surtout, est-ce que les dernières mesures prises vont peut-être, sont de nature à la ralentir?
Alors, que disent les chiffres? Ils relatent en effet une forte progression du nombre de travailleurs détachés, plus 25% en 2015, plus 23% en 2016. On parle là de travailleurs détachés déclarés. Il faut donc relativiser cette progression. Les contrôles qui se sont accentués, les sanctions qui les ont accompagnés, bref, la peur du gendarme a poussé les employeurs à se conformer aux règles de la déclaration, ce qui était largement contourné dans les années précédentes. Premier point. Deuxième enseignement, les secteurs qui emploient ces travailleurs détachés en France, car c'est l'un des principaux problèmes avec ce statut, c'est la concentration sur certaines filières de l'emploi de travailleurs détachés. Jusque-là, c'était le BTP qui en employait le plus grand nombre. C'est désormais l'intérim, dans l'agriculture notamment, et le transport. Du côté de la provenance de ces travailleurs, il y a également du changement. Ils viennent désormais plus de l'Europe du Sud que de l'Europe de l'Est, les Espagnols, les Portugais en premier lieu, puis les Polonais. Il faut rappeler que la directive de 1996 sur les travailleurs détachés n'avait pas été faite pour permettre le dumping social, mais au contraire établir un socle minimal des garanties sociales pour les travailleurs. Mais ce texte avait des failles dans lesquelles nombre d'entreprises se sont empressées de se glisser. Par exemple, il garantissait aux détachés de rester couverts par son système de sécurité sociale d'origine et le salaire minimum du pays d'accueil. Beaucoup d'employeurs en ont profité pour évidemment s'en tenir au minimum. L'écart de salaire étant tel au sein de l'Europe que le SMIC français reste toutefois attractif. Voilà le fameux dumping social. Désormais, la directive révisée corrige le tir et impose la même rémunération sur le même lieu de travail avec les mêmes primes et les mêmes indemnités. Un Espagnol ou un Polonais travaillant sur un chantier français touchera donc le même salaire et les mêmes avantages qu'un ouvrier français. Ce qui réduit l'avantage pour l'employeur, en tout cas s'il comptait économiser sur la masse salariale. Enfin, la nouvelle directive, donc, qui ne l'oublions pas, ne devrait s'appliquer que dans 2 à 4 ans. Va-t-elle faire ralentir ce phénomène ? À condition, évidemment, qu'elle soit respectée, car c'est la fraude et les mauvaises pratiques des entreprises qui sont responsables des dérives et du fameux dumping social. Et pour que soit respectée une directive, eh bien, il faut des contrôles. Et qui fait les contrôles ? Les inspecteurs du travail, qui, rappelons-le aussi, sont de moins en moins nombreux.
Annabelle Grelier, on revient sur toutes ces questions politiques, économiques et sociales. Dans un petit instant, on fait un détour par la galaxie, puisqu'il y a les résultats des analyses, des données qui viennent de paraître dans la revue britannique Nature. Un mystérieux objet rocheux qui a la forme d'un cigare, qui a été détecté en octobre. Eh bien, cet objet provient bien d'un autre système solaire. Cette détection ouvre une nouvelle fenêtre sur la formation d'autres mondes stellaires dans notre galaxie, la Voie lactée. L'astéroïde, donc, est baptisé Oumuamua, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ça veut dire messager. Le messager, voilà. Par ses découvreurs, il mesure 400 mètres de long, sa longueur représente 10 fois sa largeur. Il a donc voyagé à travers la Voie lactée depuis des centaines de millions d'années, avant de passer près de chez nous, dans notre système solaire, et de poursuivre sa route. Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce qu'il va peut nous apprendre cet astéroïde?
Eh bien, ce qui est particulier, vous l'avez dit, c'est d'abord sa forme inédite, qui, outre sa trajectoire, confirme bien que nous avons là affaire à un objet qui vient d'un autre système, cette forme oblongue de cigare de 180 mètres, précisément, pas 400, de long par 30 de large et 30 de hauteur, n'a jamais été répertorié jusqu'à présent sur les 750 000 astéroïdes que l'on a observés. Par ailleurs, l'étude de sa trajectoire vient de confirmer ce que les astrophysiciens pressentaient. Son orbite est la plus excentrique jamais observée, une excentricité de 1,20, c'est-à-dire une forme hyperbolique qui indique clairement que Oumuamua ne peut pas venir, comme la plupart de ses autres camarades, de la ceinture de Kuiper. C'est cette ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune qui recèle la majeure partie de ces petits objets composés pour la plupart de roches et de glace. Or, l'observation d'Oumuamua nous montre que précisément, il n'y a a priori ni glace ni eau à sa surface, mais qu'il est plus certain composé de roches, voire de métal, avec cette caractéristique particulière qui est que sa luminosité varie jusqu'à 10 fois en puissance. Là aussi, c'est une propriété totalement inédite pour ce type de géocroiseur, qui indiquerait que sa surface a été en fait rougie par les effets des radiations cosmiques pendant des centaines de millions d'années. Si on ne sait pas encore pour le moment d'où il vient, on sait en revanche où il va rester dans notre système pendant encore un peu plus d'un an. Il en sortira en janvier 2019 après avoir dépassé Saturne pour prendre la direction de la constellation de Pégase. Et compte tenu de cette opportunité exceptionnelle, hein, l'initiative pour les études interstellaires indique qu'il serait envisageable, pourquoi pas, de mettre au point une mission express pour aller l'étudier de plus près, c'est-à-dire envoyer un petit satellite ou une sonde. Reste à savoir maintenant si les grandes agences spatiales sont prêtes à emboîter le pas.
Nicolas Martin, merci beaucoup. On vous retrouve donc pour la méthode scientifique tous les jours sur France Culture à 16h. À tout à l'heure, on revient vers notre invité François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France, actif au sein du Parti Socialiste pour une reconstruction. Ludovic Piétonnet.
Ben oui, parce que dans 4 mois, François Calfon, c'est le congrès du Parti Socialiste. A priori, la date est fixée au 18 mars. Donc forcément, chez les élus, on fait chauffer les marmites, on prépare les classiques motions. Bref, il s'agit d'envisager l'après Cambadélis, ou plutôt maintenant l'après direction collégiale dont vous faites partie, François Calfon, vous-même donc avec cette motion, entre guillemets, avec ce texte, en tout cas cette tribune Territoires en colère, c'est une forme de préparation de ce congrès socialiste à partir de la base, à partir des élus locaux.
Alors, si c'est la tambouille habituelle que vous présentez dans votre papier, certainement non. Si c'est la contribution...
C'est plus noble.
C'est la contribution des socialistes à un combat important, celui d'avoir une France qui tienne debout et un lien social, certainement oui. Mais je ne confondrai pas cette mobilisation des territoires avec la préparation du Congrès des socialistes. Pour ma part, je vais vous répondre très directement, je compte publier dans les prochains jours un manifeste plus généraliste qui reviendra sur finalement les causes conjoncturelles et structurelles de l'État où nous sommes, et puis essayer d'envisager finalement un futur... une vraie place pour les socialistes.
Sur quelle base il faudrait reconstruire ? Quelles sont les principales pistes ?
Là où il y a un facteur commun, c'est que je pense que le monde qu'on nous prépare et que Arnaud Montebourg avait voulu démondialiser, donc cette mondialisation qui est maintenant clairement malheureuse, sauf pour quelques gagnants, est surtout déshumanisante. Elle est déshumanisante parce que la chasse au super profit tue même le modèle d'entreprise où il y avait une répartition un peu équitable de la valeur. Elle est déshumanisante parce que vous voyez bien que l'homme se construit contre son environnement. Elle est déshumanisante parce que le service public qui hier était protecteur devient soit absent, soit un peu léviathan, au sens où nous sommes confrontés à un machinisme qui finalement fait fuir.
Donc il faut démondialiser.
Non, il faut réhumaniser un phénomène qui s'appelle la mondialisation. Donc la démondialisation, c'était un
choix. En 2008, choix. Voilà. Déjà Arnaud Montebourg.
Donc voilà. Il faut réhumaniser d'un côté. Hein, c'est ce que je viens de décrire. Et il faut relocaliser de l'autre. Ça n'est pas démondialiser, relocaliser. Aux États-Unis, on appelle ça le phénomène du localisme. Et quel est ce phénomène du localisme, puisqu'on parle des territoires ? Eh bien, c'est l'alliance des circuits courts qui sont vertueux, et je vais en donner un exemple, et du Made in France, qui a souvent été finalement présenté par Arnaud Montebourg. C'est quoi ce localisme et cette production locale vertueuse ? J'en donne un exemple pour le futur qui peut être un... facteur d'opportunité. Avant, on délocalisait toute la production des petites séries en Chine. On avait un dumping social en Chine, une mauvaise qualité et un bilan carbone épouvantable. Avec les imprimantes numériques, on peut relocaliser de la production sur notre territoire, dans nos provinces, dans nos pays. Je donne un deuxième exemple qui est d'actualité, qui n'est pas dans le futur. Un supermarché a fermé, c'était dans l'Est de la France. Les producteurs, les agriculteurs l'ont repris. Ils ont produit dans des conditions... écologiquement et socialement responsables. Ils ont supprimé les intermédiaires. Ils ont vendu finalement aux consommateurs qui sont bien plus contents d'acheter dans la proximité. Tout le monde y a gagné sur le prix. On a exclu les prédateurs de la finance ou de l'économie
point,
financiarisée
exemple,
et tout
Calfon.
Le monde va mieux.
Sur ce point, François Calfon, oui. Le président des métropoles, donc Emmanuel Macron, celui que vous surnommez un peu de cette façon, en quoi il est contre ce localisme ou ces initiatives locales ?
Mais tout en lui est le contraire de cela. Vous voyez bien que c'est un homme qui s'est fait sur les super deals des entreprises mondialisées. Et vous savez, quand on fait une fusion-acquisition en banque d'affaires, c'est peut-être un peu loin pour nos auditeurs, mais on fait quoi ? On réunit deux entreprises pour faire du levier, ce qu'on appelle du levier. Que les
Donc il est toujours banquier chez Rothschild pour vous, quoi.
Non, mais je vais essayer de répondre à votre question. Il me faut un peu plus que 10 secondes, pardon, allez-y. Pour la pensée Twitter.
Fusion-acquisition.
Fusion-acquisition, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Eh bien, on ferme des sites. Parce que vous voyez, les salariés, les ingénieurs qui sont dans les sites en province, c'est une variable d'ajustement. Et de la même manière, quand il a dit... moi, le président de la Startup Nation, je veux supprimer des élus, c'est qu'il a un tableau Excel dans la tête au profit de ses amis super riches.
Et vous, vous avez un programme pour être candidat quand même à la tête du parti, de ce renouveau, plus ou moins.
Écoutez, moi je ne m'interdis rien à ce stade, car je vois foultitude de candidats, mais je ne vois pas de contenu. Donc,
Il y a votre texte, voilà, c'est ça.
Il y a ce texte, j'en ai pas vu beaucoup d'autres.
Et il y a le manifeste
ce manifeste qui est en préparation.
Ça va fleurir les textes. Stéphane Le Foll va faire le sien demain soir. Ça, Emmanuel Morel qui va aussi tenter quelque chose avec l'aile gauche. On parle des quadrats,
Najat Vallaud-Belkacem, Boris Vallaud. Je préfère un trop plein d'idées que finalement une certaine frugalité des idées et une surcroissance des ambitions. Sur les textes, il y aura, j'espère, des convergences sur la base d'analyses qui peuvent se rassembler, parce qu'il n'y a pas lieu de se diviser plus que de raison.
Voilà, et donc on vous réinvite le jour du manifeste. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Merci François Calfon d'avoir accepté notre invitation. Soleil au sud, grisaille au nord, météo classique aujourd'hui. 8 à 20 degrés pour les températures. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h, Aurélie Kiffer.